Merci d'écouter le studio Kalangu à travers toutes nos radios partenaires. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de 18h au micro Nafissadom. Au sommaire de cette édition, ouverture ce matin de la session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2017. Pour le président du Parlement nigérien, la lutte contre la corruption sera l'un des points saillants de cette session, dite session des lois. Adosso bagarre dans la nuit de jeudi à vendredi entre policiers et militaires. Bilan, un militaire tué. À suivre dans ce journal les précisions du gouverneur de la région de Dosso. Dans ce journal-là également, nous irons à Agadez pour parler de la visite des sites miniers par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab. Enfin, dans la partie magazine, il sera question de la transformation du souché avec une femme productrice de maradi. Ouverture ce matin de la session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2017, dite session des lois. Durant 3 mois, les députés vont examiner et adopter des lois et aussi procéder au contrôle de l'action gouvernementale. Pour le président du Parlement nigérien, la lutte contre la corruption sera l'un des points saillants de cette session. Reportage de Habibou Garba.
La séance est ouverte.
Le président de l'Assemblée nationale a dès le début de son discours salué la mise en place de Maiboulala, une opération de lutte contre la corruption engagée par le président Issoufou Mahamadou. Ousseyni Tenni affirme que les députés vont accompagner le gouvernement dans la lutte contre ce qu'il qualifie de mal du siècle.
Il ne s'agit plus de punir quelques-uns pour l'exemple, mais plutôt de faire comprendre à tous que la Renaissance est porteuse d'un code d'éthique dans lequel nul nomenclatura intouchable, dans lequel la loi est la même pour tous.
Pour Saadou Dilé, député de la majorité, si le Niger occupe aujourd'hui le 99e rang sur 168 pays en termes de l'indice de perception de la corruption, c'est aucun doute grâce aux efforts du président de la République.
Je me réjouis que, quand vous regardez tout autour de vous, ce sont des résultats, en tout cas, qui sont en train d'être enregistrés. Vous le savez très bien.
Ce discours du président de l'Assemblée nationale régit l'opposition parlementaire qui invite d'ailleurs le président Ousseyni Tenni à la marche pacifique qu'elle organise, disent-elles, demain contre la corruption et la malgouvernance.
Le président de l'Assemblée nationale semble indiquer au pouvoir exécutif la nécessité de conduire en toute impartialité la lutte contre la corruption. C'est le seul aspect qui a retenu véritablement notre attention.
Les travaux démarrent demain avec la convocation de la conférence des présidents pour établir le calendrier de travail.
En bref, l'opposition politique réunie au sein du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FRDDR projette d'organiser une marche pacifique suivie de meetings demain samedi 4 mars. Une marche pour dénoncer et contester ce qu'elle appelle la mauvaise gouvernance. Selon Soumane Sanda, coordinateur régional du FRDDR, les préparatifs vont bon train. L'essentiel a été fait côté mobilisation. Un mort côté militaire et 7 blessés, policiers et militaires. C'est le bilan d'un affrontement qui a opposé militaires du camp Agali et des policiers de Dosso. Cela s'est passé de la nuit du jeudi à vendredi. Selon le gouverneur de la région de Dosso, c'est une altercation entre un policier et un militaire qui est à l'origine de cette bagarre. Écoutons les explications du gouverneur Moussa Soumane.
Quand ils étaient attaqués, les policiers, donc ils se sont un peu défendus avec lacrymogène. Donc voilà les tirs que les gens ont entendus. Peut-être il y avait eu, je ne le confirme pas, il y avait eu des tirs, en tout cas avec armes de guerre, mais en l'air. Pour le reste, on verra. Il y a eu un militaire décédé suite à cet événement. Il y a 2 blessés graves actuellement à l'hôpital. Un militaire, pareil, qu'il est même évacué à Niamey. Et il y a un autre policiers aussi dans un état grave au niveau de l'hôpital. Bon, celui-là, c'est les premières victimes du poste de police de Rutgaya. Donc, parmi les blessés légers qui sont libérés depuis hier, la police a 3, les militaires ils ont 2. Donc, au total, en dehors du décédé, nous avons 7 blessés. Voilà la version qu'on a présentement. Tout était calme vers 0h. On était jusqu'à 2h du matin sur pied. J'ai refusé de quitter, en tout cas, les endroits jusqu'au départ du dernier militaire, je veux dire. Donc, c'est comme ça. La situation actuellement, en tout cas, elle est maîtrisée, elle est calme.
Vous venez là d'entendre le gouverneur de la région de Dosso, Moussa Soumane, au micro de notre correspondant de la région. Dans un communiqué diffusé et repris hier par l'hebdomadaire Jeune Afrique, les organisations jihadistes Ansaruddine El Mourabitine et la Katiba Massina affirment se regrouper sous la bannière d'Al-Qaïda au Maghreb islamique à Acmi. Selon ce communiqué, la nouvelle organisation prendra le nom de Jamaat Nasr al-Islam wal al-Mumin, groupe pour la victoire de l'islam et des fidèles, et sera dirigé par Iyad Aghghali. André Bourgeot, anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS français, analyse les raisons de cette fusion des groupes islamistes au micro de Adama Dawaki.
Je suppose que la nouvelle stratégie consiste à se réunir, à réunir les 3 katibas que vous avez mentionnés, à savoir Al-Mourabitoun, Acmi et Ansaruddine. Si on prend l'exemple du Niger, le Niger est complètement dans un étau où à l'est il y a la Libye avec Daesh, qui est quand même les groupes salafistes djihadistes sont particulièrement influents et actifs. Ensuite, vous avez au nord, donc sur la frontière avec le Mali, des incursions des salafistes djihadistes maliens, puisque plus récemment, il y a eu 15 ou 17 soldats nigériens qui ont été tués à la frontière nigéro-malienne. Et puis, bien sûr, l'influence extrêmement importante de Boko Haram, donc Daesh, sur la partie orientale et plus particulièrement, d'une manière plus générale, sur l'ensemble du bassin du lac Tchad. Donc on voit bien que le Niger, actuellement, est complètement entouré, encerclé par les forces salafistes djihadistes.
Retour ici à Niamey avec le président du conseil de la ville qui a réagi hier à travers un point de presse au propos du ministre des Finances sur les difficultés financières que connaît son entité administrative. Hassan Seydou a apporté des précisions sur la situation financière de la ville de Niamey. Nous l'écoutons dans des propos recueillis par nos confrères du groupe Anfani.
Les recettes propres de la ville s'élèvent en moyenne à 75 millions par mois. Mais le livre 5, en son article 277, stipule que les impôts rétrocédés par l'État aux collectivités territoriales sont perçus par les services de la Direction générale des impôts et reversés au compte général des impôts, c'est-à-dire le trésor, pour le compte des collectivités territoriales bénéficiaires. Pour la ville de Niamey, donc, il s'agit de la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique. Les difficultés de trésorerie de la ville de Niamey ont commencé en 2016. Nous demandons simplement la transparence avec la DGI et le trésor. Depuis mon installation, hormis les salaires, je n'ai jamais bénéficié de retrait important du trésor. À deux exceptions près. Lors de la visite d'État du président français, le trésor a consenti le retrait de notre compte de 270 millions pour le toilettage de la ville. Et dans le cadre de la récupération des domaines publics communément appelés déguerpissement, on a été autorisé également à décaisser 250 millions.
Le président du conseil de ville de Niamey, Hassan Seydou, que vous venez d'écouter. Je l'annonçais dans les titres, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB, en collaboration avec le réseau parlementaire sur l'initiative de la transparence dans la gouvernance des industries extractives ITGI, ont effectué des visites sur les sites d'exploitation de l'uranium de la région d'Agadez du 1er au 2 mars dernier. L'objectif de cette mission est de s'enquérir notamment des conditions de vie et de travail des travailleurs des mines, le constat du député Soumaïla Ali, membre du réseau parlementaire.
Nos constats, vraiment, ça nous rassure que les deux visites qu'on a rendues à la Cominac et à la Soumaïr, les travailleurs, 99% nous ont rassurés qu'ils sont des Nigériens. Ils sont en train de travailler dans de bonnes conditions parce qu'en tant que représentants du peuple, on était jusqu'à dans les organes qu'ils appelaient tel fermé. On était dedans, on a fait des visites, on a vu comment ça se passe. Tous les représentants, les employés qui étaient là-bas, on les a rencontrés. Et aussi à Azelek, aussi, on a rencontré les représentants. Il nous a donné son point de vue par rapport à la fermeture la Semina. Et nous, en tant que représentants des peuples, nous aussi, ça nous dérange. On s'était dit qu'Inch'Allah, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette usine soit ouverte. Bon, les difficultés à la Koumnak ou à la Soumaïre concernant la maladie professionnelle qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas une prise en charge. Là aussi, on a dit on va voir de qui de droit peut-être pour qu'on puisse intégrer la prise en charge de la maladie professionnelle. Tout à fait, on compte agir en faveur du bien-être de ces populations parce qu'en tant que représentants du peuple, de notre retour, on va voir s'il faut faire des recommandations ou bien des amendements, des lois ou bien des projets de loi pour que toutes ces remarques qu'on venait de détailler soient prises en compte.
Autre constat, celui de la vice-coordinatrice du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire rotable. Madame Ousmane Naomi rappelle qu'en dehors de l'uranium, il y a d'autres richesses dans la région d'Agadez. On l'écoute.
Nous avons vu ce qui s'est passé sur le terrain. Nous avons constaté. Nous avons aussi remarqué qu'il y a des richesses qui ne sont pas exploitées ou bien qui ne sont pas mises en valeur. Indépendamment, j'ai dit, de l'uranium qu'on exploite, indépendamment de l'or qu'on exploite aussi et de manière artisanale, il y a à côté du sel de haute qualité dans la région de Gane. Il y a du natron. Et vous savez combien le Niger importe en sel, combien de tonnes le Niger importe en sel du pays, alors que le sel de haute qualité à côté. Et ce n'est pas mis en valeur. Et ces gens n'arrivent même pas à liquider leurs produits. Alors que les entreprises aussi, les sociétés, dans le traitement de l'uranium, utilisent le sel. Et le Niger a besoin de ce sel. Maintenant, vous trouvez même à la région, même à Ingal, les gens consomment du sel venu d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut pour valoriser ce secteur-là qui est abandonné, qui est aussi un secteur de développement local et de développement national? Donc c'est tous ces points-là, j'espère que les députés, ils ont vu, ils ont constaté et même ils sont édifiés aujourd'hui. Quand ils reviennent à l'Assemblée, le débat sera très haut.
Cap sur le Burkina Faso où se déroule depuis le 25 février dernier à Ouagadougou la 25e édition du Festival panafricain du cinéma FESPACO. Trois films nigériens sur les cinq ont d'ores et déjà été projetés. Arimi Abakari, notre correspondant particulier au FESPACO, nous fait le point.
Le film de notre compatriote Ramatou Keita est finalement projeté hier et aujourd'hui. Nous avons suivi la projection de ce matin au ciné Burkina. La salle était pratiquement pleine, bien que ça s'est passé de bonne heure. Selon ce qu'on a appris, c'était le cas hier aussi au ciné Nerwaya. Au plan des conférences et ateliers, il faut noter que AfricaDoc, qui est un réseau euro-africain, a aussi organisé le bilan de son projet avec l'OIF, qui a été consacré par l'édition d'un palmarès de producteurs, notamment ouest-africains. On peut noter au moins 5 producteurs nigériens au sein de ce catalogue-là. Le MICA se poursuit. Le public continue de fréquenter les différents stands. Aussi, les jurys des prix spéciaux ont commencé à se réunir, à délibérer même si nous ne sommes pas encore au secret de ces délibérations.
Place à présent à la partie magazine de cette édition, la 3e édition du Salon d'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage Sahel-Niger se poursuit au palais du 29G de Niamey. Parmi les participants, des femmes exploitantes venues de différentes régions exposent leurs produits fabriqués à base de céréales. Hajiasa Amoussa est membre du groupement féminin Hatinkei Mata du village de Serkin-Hassi, région de Maradi, qui est spécialisée dans la production et la transformation du sushi. On l'écoute.
Nous sommes déjà expérimentés dans la culture du sushi. Dans le temps, nous la cultivons seulement et des commerçants l'exportent pour la transformer en différents produits et ils reviennent ici nous les revendre à un prix exorbitant. Maintenant, avec l'aide de quelques ONG qui nous ont formés sur les techniques de transformation du sushi, nous arrivons à nous en sortir toutes seules. Pour cette transformation, nous cherchons tout d'abord du bon sushi. Nous la travaillons pour enlever tout ce qui n'est pas utile. Après, nous le faisons passer à la machine à moudre pour obtenir une farine que nous tamisons par la suite pour avoir une fine farine. Avec cette farine, nous faisons des biscuits, des galettes, de l'alkaki et même du jus naturel pour ne citer que cela. Nous rencontrons d'énormes difficultés dans ce travail. Et la plus grande des difficultés est le manque de matériel adéquat. Nous sommes le plus souvent obligés d'utiliser nos ustensiles de cuisine tels que le mortier, le tamis et autres. Malgré ces difficultés, l'on arrive à gagner beaucoup. Par exemple, en un an, une femme qui avait l'habitude de se procurer une seule étoffe de pagne Maintenant, avec les revenus, elle peut en avoir au moins 5. Nous prenons en charge la scolarité de nos enfants. Nous contribuons aussi pleinement dans les dépenses quotidiennes de la famille, ce qui soulage nos hommes. En plus de cela, nous sommes le plus souvent invités aux salons et forums pour exposer nos produits. Cela donne une visibilité à nos produits. Et au village, nous les étalons sur les tables. Mais jusque-là, nous n'avons pas atteint notre objectif, car nous n'avons jusqu'à présent pas eu de grosses commandes de la part de grandes sociétés. Et aussi, notre travail de transformation de sujet fait partie intégrante du contexte des 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Nous souhaitons être renforcés en capacité, dotés de matériel pour mieux avoir des marchés à l'extérieur et faire émerger ce travail.
Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi, au revoir.